Bonjour et bienvenue dans l'émission Écologie d'FM Radio, Mission Verte. Chaque jeudi de 10h à 10h30, je suis Laurence. Vous pouvez nous suivre sur le 98 de la bande FM ou sur internet idfm98.fr. Merci à Francky pour la réalisation de l'émission. Programme de ce jeudi 19 décembre, deux idées cadeaux à glisser au pied du sapin. Le premier, c'est un livre, enfin ce sont deux livres. Le premier, c'est En forêt, 25 activités scientifiques et ludiques. C'est de Stéphane Niveau qui sera en notre compagnie. C'est paru aux éditions Ulmer. Le second est un ouvrage, là aussi, hein, magnifique, à glisser au pied du sapin. Il s'intitule Savoir et faire, objets et gestes d'autrefois, d'Emma Bruski qui sera avec nous et Anaïs Barelli qui en est la photographe. C'est également paru aux éditions Ulmer. On se retrouve juste après ça avec notre premier invité, Stéphane Niveau. À tout de suite. Et nous retrouvons notre invité Stéphane Niveau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un très bel ouvrage. Il s'appelle « En forêt, s'émerveiller, comprendre, expérimenter ». C'est paru aux éditions Ulmer, un ouvrage à glisser au pied du sapin. Et pour cause, c'est un livre d'activité où on va découvrir plein de choses à faire du côté scientifique, ludique, pour toute la famille, avec des jeux pour les enfants à partir de 7 à 11 ans. Tout cela pour découvrir un milieu que l'on connaît, que l'on croit connaître, la forêt, et que vous nous faites découvrir ou redécouvrir à travers votre ouvrage. Mais avant de parler de ce titre, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Donc, avant tout, je suis accompagnateur en moyenne montagne. Et je fais de la médiation culturelle et scientifique depuis plus de 30 ans. Et jeune papa, et du coup, bien évidemment, j'ai pensé aussi à toutes les autres familles qui avaient des enfants et qui reçoivent à peu près 100, 200, 300 pourquoi dans la journée. Et le monde de la forêt n'échappe pas évidemment à cette règle. Et donc l'idée, c'était en effet de donner un minimum d'informations pour pouvoir se retrouver en famille dans la forêt avec ses enfants et puis pouvoir répondre à toutes les questions, en tout cas à une grande partie des questions que les enfants peuvent nous poser lorsqu'on se promène avec eux dans ce milieu très particulier.
Et dont nous adultes, on n'a pas toujours la réponse, hein, parce que, en tous les cas, moi j'ai appris beaucoup de choses sur ce milieu qu'est la forêt. Alors on a de la chance nous en région parisienne, car on a des belles forêts, même si elles souffrent du changement climatique. Je pense notamment à la forêt de Montmorency, qui est près de la ville d'Enguerre-les-Bains où je me trouve, qui a la maladie de l'encre, hein, auprès des châtaigniers. Néanmoins, on peut toujours s'y promener et découvrir, comme lecteur de votre ouvrage, de magnifiques endroits et justement, donc c'est pour commencer tout simplement les arbres. Vous nous rappelez combien ils sont précieux, car à la fois on les exploite, ils nous nourrissent, ils nous chauffent, ils nous protègent. C'était vraiment aussi introduire par le béaba.
Oui, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas une forêt type en France, que ça passe. Moi, j'habite en Haute-Savoie, donc que ce soit les forêts ici d'altitude ou les forêts que vous avez cité, le Montmorency, qui est un très bon exemple de forêt qui se trouve donc en pas trop loin de Paris. Donc tout est possible et l'idée, c'est en effet d'avoir les bases, tout simplement pour, alors après ça peut donner envie d'aller beaucoup plus loin bien évidemment, mais d'avoir les bases pour comprendre comment vit une forêt et puis après s'intéresser évidemment à l'unité qui est l'arbre qui compose ces forêts dans toute sa diversité. Et c'est comme ça qu'au cours du livre, on démarre en effet à quelque chose qu'on ne regarde pas forcément toujours, ce sont les racines, oui. Puis après le tronc, puis après les branches, les houppiers, etc., etc. Donc c'est vraiment de partir du bas jusqu'en haut et de guider le regard de l'enfant. Mais avant de guider le regard de l'enfant, c'est aussi celui du parent qui très souvent redécouvre des choses oubliées. Et c'est beaucoup plus facile de pouvoir en discuter avec l'enfant lorsqu'on a soi-même évidemment de l'assurance sur le milieu.
Et puis aussi, vous rappelez les règles d'or des balades en forêt, car on a tendance, en allant se promener, se balader en forêt, oublier que c'est un milieu très fragile.
Absolument. Donc, quel que soit le milieu, il y a un minimum de règles, de respect à mettre en œuvre, et puis aussi pour sa propre sécurité et celui de la famille. Donc, il me paraissait intéressant de rappeler ce qui peut paraître quelquefois un peu du, là aussi, pour une pour une fois du béaba ou de la logique, mais on se rend compte, hein, lorsque nous randonnons dans nos forêts ou ailleurs dans d'autres milieux, que les béabas très souvent sont un peu oubliés. Donc il me paraissait intéressant de commencer donc le livret par ces rappels ou ces règles de comportement où on se partage ce milieu entre différentes pratiques et il est important que chacun se mette soit bien à sa place pour le respect de tous et du milieu naturel.
Alors ce qu'on découvre, on découvre beaucoup d'informations, d'anecdotes et on rappelle d'activités scientifiques, ludiques. Notamment, j'ai beaucoup aimé comment mesurer un arbre. Et il y a deux méthodes. Alors la méthode de la mesure des ombres, la croix du bûcheron. C'est très très intéressant parce que on se dit que quand on est enfant, on n'a pas vraiment idée, même adulte, hein, de la hauteur de ces géants des forêts. Et c'est l'occasion de s'amuser à découvrir la hauteur des arbres. Là, on arrive aux fêtes de fin d'année, fêtes de Noël. On trouvera peut-être beaucoup moins de feuilles, mais on peut trouver, comme vous le proposez, tel un détective en herbe, des traces des animaux. Alors, je sais qu'en forêt, vers chez nous, on a des sangliers, des chevreuils, des écureuils, même des renards. Et vous nous dites, vous nous faites découvrir notamment grâce aux illustrations de Jasmine Collin-Navaï, si je dis pas de bêtises. Des magnifiques illustrations où on a justement ces empreintes de ces animaux avec ces quelques exemples de traces. Là encore, c'est l'occasion d'en savoir plus, hein, sur les secrets de la forêt.
Oui, bien sûr. Même l'hiver, la forêt est bien sûr tout à fait praticable. Il y a d'autres activités à faire. Et souvent, le milieu est un peu plus humide et on a donc des traces au sol. Mais en plus d'avoir des traces sur les arbres d'animaux beaucoup plus petits. Et l'idée, c'est ça, hein, c'est de partir de la forêt dans sa globalité, dans son ensemble, qui représente des centaines et des milliers d'hectares. Je crois que c'est 2000 hectares, hein, la forêt de Montmorency, dont vous parliez tout à l'heure. Et puis de pouvoir, comme ça, tout doucement, avancer. Et puis se rendre compte qu'on continue d'avancer, on observe. Et en observant, on découvre des tas de petites traces qu'on n'avait pas forcément vues au premier passage ou au premier regard. Mais en affûtant ce regard, on finit par observer et découvrir un monde beaucoup plus petit et qui grouille d'empreintes. Et l'idée, c'est bien ça, hein, c'est d'accompagner l'enfant, donc le parent accompagne l'enfant de l'entrée de la forêt jusqu'à la trace la plus petite dans l'écorce ou sur une souche d'un arbre renversé.
Et on peut même aussi aller ramasser des brindilles ou de la mousse. Et vous avez donné une très belle expérience de collecte de mousse et de l'observation de cet échantillon de mousse. Et j'ai d'ailleurs appris, hein, que finalement, la mousse, elle donne pas le nord lorsqu'on la découvre au pied d'un arbre sur un tronc.
Voilà, absolument. Donc on a tous appris que la mousse poussait au plein nord, mais la mousse, elle pousse surtout à l'endroit où l'humidité est relative, et quelle que soit donc la forêt, l'humidité, elle n'est pas forcément toujours au même endroit, suivant comment le relief l'entoure, suivant comment les arbres sont plantés, plus ou moins serrés, l'humidité n'est pas du tout au même endroit. Donc il faut surtout pas se fier à la présence de la mousse pour chercher le nord. Ça, c'est la première des règles à retenir. Et puis aussi, on rappelle également, il y a une activité de mousse, en effet, mais qu'il y a des règles, on peut pas partir avec un sac de 50 litres de mousse. Le ramassage de mousse en France est réglementé. Donc il faut savoir que seule la mousse qui tient dans la poignée, dans une main, est autorisée, mais pas en ramener des kilos. Donc à partir de là, tout va bien. On peut en effet faire des activités. Ce qui était très important aussi, c'est bien évidemment, c'est de toucher, c'est de sentir, c'est de manipuler. La pédagogie et puis surtout l'apprentissage passe aussi par tous les sens. Donc c'est très important d'avoir des activités où on manipule, où on construit, où on découpe, où on colle, etc.
Alors évidemment, En forêt, c'est le titre de votre ouvrage, c'est une invitation à aller en forêt, mais on n'oublie pas, lorsque le temps est mauvais, quelques activités à faire à la maison. Ça sera peut-être pour le cas pour beaucoup, parce que la météo n'est pas toujours idéale en ce moment, avec notamment comment faire une carte par soi-même ou des vaisseaux de couleurs. C'est très amusant. C'est aussi ramener un peu de la nature à la maison pour que chacun ait un nouveau contact dès le plus jeune âge à ces éléments de la biodiversité.
Oui, c'est ça, c'est ramener la forêt à la maison, en effet, pouvoir prendre le temps, parce que ça, c'est évidemment très important, prendre le temps de se poser à la maison et puis de réfléchir éventuellement à ce qu'on a vu avec les parents, ce qu'on a ramassé pour faire une activité. Et l'autre intérêt que je trouve aussi, c'est que les activités peuvent se préparer en amont, c'est-à-dire que les parents préparent du matériel en amont pour pouvoir soit faire l'activité en forêt ou soit la faire en effet un jour de mauvais temps à la maison, tout en parlant de la forêt.
Oui, dès le début, hein, on vous nous rappelait les outils à avoir avant de partir, des objets simples, hein, de bon sens, mais lorsqu'on part, on se croit un peu, on pense que c'est inutile d'avoir une gourde, une casquette, un sifflet. Or, en forêt, tout peut arriver. On n'a pas forcément de réseau, hein, si il arrive à un accident. D'ailleurs, vous rappelez, hein, lorsqu'il y a des gros coups de vent, faire attention parce qu'il peut y avoir des très grosses branches qui sont en équilibre au-dessus de nos têtes et qui sont très dangereuses. Vous donnez comme ça beaucoup, beaucoup de conseils pour les parents et les enfants. On apprend beaucoup de choses. C'est un très beau livre à offrir ou à s'offrir pour les fêtes de fin d'année. Je rappelle le titre, En forêt, s'émerveiller, comprendre, expérimenter. Ça fait partie de la collection La Nature en famille. C'est par aux éditions Ulmer. Je crois savoir que vous êtes également sur Internet. Vous avez votre propre site où on peut retrouver votre travail et quelques extraits de ce livre. Le titre de ce site, c'est stéphaneniveau.fr.
Absolument, tout attaché, minuscule. Oui.
Eh bien, c'est noté. On vous doit aussi d'autres ouvrages dont on peut retrouver les références sur le site. Et en attendant, on va en librairie et après en forêt avec votre ouvrage sous la main, un très beau livre que j'invite à découvrir à nos amis auditeurs. Merci à vous Stéphane Niveau et puis on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
Merci à vous, c'est gentil, merci de même.
Au revoir. Et nous retrouvons notre invitée Emma Bruski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un très beau livre qui devrait faire vraiment plaisir à celles et ceux qui aiment les traditions, les objets d'autrefois et même les curieux. Le titre, c'est « Savoir et faire, objets et gestes d'autrefois ». Et on peut d'ailleurs aller découvrir quelques pages en cliquant sur votre site, qui est votre nom, hein, tout attaché, emmabruski.fr. Bruski s'écrit Bruschi. .fr donc, et on peut retrouver d'ailleurs quelques extraits de votre travail, car on peut le dire, vous êtes une artiste pluridisciplinaire.
Oui, c'est ça. Je travaille aussi bien à la base, je suis plutôt d'une formation autour du textile, de la mode, du vêtement. Et après, on va dire que je me suis passionnée de savoir-faire en tout genre, donc aussi bien dans le vêtement que dans l'objet. Et le livre explore plutôt la partie, on va dire, objet, design, que celle du vêtement.
Alors justement, ces objets qui viennent tout droit du passé, on croit très lointain, mais pas tant que ça. D'ailleurs, vous les remettez un peu au goût du jour, parce que finalement, ce sont des objets qui ont encore un intérêt, que ce soit pratique ou décoratif, comme le moule à beurre, le bouquet de moisson, le vinaigrier, ou encore le fuseau de lavande, ou le panier en osier magnifique. Ce sont des objets que vous avez découverts, redécouverts, en allant dans nos campagnes.
Oui, c'est ça. En fait, c'est des objets qui ont, on va dire, baigné mon enfance ou tous les souvenirs que j'ai dans la ferme de mes grands-parents qui étaient paysans. Et donc, c'est à la fois des objets où j'ai des souvenirs, mais c'est vrai que c'est assez rare de les avoir vus en action ou en train d'être faits. Donc, j'avais envie de les réinterpréter et aussi c'est une sélection d'objets qui pour moi ont du sens à réintégrer dans notre quotidien et donc voilà, j'ai essayé de me focaliser sur cela et donc d'expliquer à la fois pourquoi est-ce qu'on a tout intérêt à continuer à les utiliser, à perdurer ces savoir-faire c'était la genèse du livre.
Et c'est formidable. Alors juste, on va commencer par le début, le moule à beurre. On peut dire qu'il y en a autant de moules que de villages.
Oui, c'est ça. En fait, comme ils étaient, ils pouvaient être soit faits au sein même de la famille. Donc en fait, chaque moule était unique, ou bien c'était dans les crèmeries ou dans les fermes qui avaient leur propre moule pour justement le différencier des autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le beurre, c'est assez standardisé, donc on connaît que le fameux rectangle un peu plus monotone, quoi. Mais ils étaient avant tout décoré avec des motifs souvent symboliques, voilà, mais c'est vrai que c'était souvent des éléments liés à la nature,
objets,
des fleurs, des animaux, et c'est des, voilà, des objets magnifiques, et à chaque fois c'est des systèmes différents selon l'artisan qui l'a fait. Et donc voilà, c'est des objets qui m'ont toujours touchée, mais c'est vrai qu'on les voit souvent en décoration, mais très peu peu en action. Et donc j'avais envie de
nous rappeler ces gestes.
Mettre la main à la pâte.
Alors justement, on découvre donc à chaque objet, vous commencez un peu par un historique, comment vous êtes retombé sur ces objets d'autrefois, vous nous rappelez quel en était leur usage vraiment du quotidien partout en France, et puis ensuite vous nous donnez quelques recettes, notamment donc comment faire son beurre avec donc des explications, mais aussi des photographies formidables. C'est un peu un pas à pas, et on peut faire après à son tour en suivant vos explications et en se reportant sur les photos qui alimentent le propos. C'est formidable. Alors il y a aussi par exemple le beurre clarifié, ou encore le beurre à l'ail de Mémé Suzanne. L'occasion aussi d'avoir une petite recette là, on est à la veille des fêtes de Noël. Vous nous rappelez comment farcir des escargots pour cette occasion.
Oui, voilà, c'est vrai que là c'était un petit clin d'œil à ma grand-mère qui pour le coup fait des escargots au beurre à l'ail chaque Noël, donc cette année aussi, donc j'ai voulu mettre sa recette en lumière et montrer aussi quelques différentes manières d'utiliser ensuite le beurre en cuisine, de le magnifier. Et c'est vrai que le but c'était surtout de donner envie en fait, c'est vrai que ça passe aussi par les photos, par les visuels, et donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde, on va dire, c'est vraiment pour débuter. Et pour déclencher, on va dire, cette envie-là de commencer, de comprendre comment faire le beurre aussi, parce qu'on ne sait pas forcément comment c'est fait finalement. On consomme pourtant presque tous les jours, mais c'est vrai que c'est rare de savoir, d'avoir des personnes qui savent le faire, et pourtant c'est pas si compliqué à faire chez soi. Et donc voilà, enfin,
et les ingrédients,
comment on part de la crème jusqu'au beurre.
Ensuite on part du beurre dans un objet que j'ai trouvé magnifique, le bouquet de moisson. Vous donnez plein d'astuces pour les reproduire avec à chaque fois un côté très moderne, quelque chose de très contemporain, alors que c'est une pratique qui a existé depuis des siècles.
Oui, c'est ça, en fait toutes les civilisations et cultures qui ont cultivé des céréales les ont quasiment toutes systématiquement tressées, donc c'était vraiment un besoin on va dire presque un peu spirituel aussi lié à ces objets là et c'est vrai que ces thématiques là me parlent tout particulièrement parce que c'est des objets que j'affectionne particulièrement, et on cultive le seigle dans ma famille, et donc on organise aussi des moissons à l'ancienne. Et c'est vrai que quand on moissonne à la main et à la faux, on a tout de suite envie de les mettre en valeur, les magnifier, les célébrer, parce que ça nous a demandé du temps et qu'on est aussi beaucoup plus nombreux que dans des moissons mécaniques. Et donc voilà, souvent c'était des bouquets qui étaient traditionnellement offerts, donc c'était soit en remerciement à la maîtresse de maison, parce qu'il y avait énormément de voyer saisonnier qui étaient mobilisés pendant ces récoltes-là. Soit voilà, ça peut être aussi en offrande sur la terre, accroché chez soi pour protéger sa maison. Et puis voilà, chaque culture a aussi tressé avec son style. Il y a par exemple les bouquets de moisson japonais qui eux sont faits en paille de riz, dans un style totalement différent. Et puis voilà, moi j'ai essayé aussi de les réinterpréter à ma manière, avec les techniques que je connais, mais c'est vrai que j'essaie toujours de leur donner un aspect très inspiré des bouquets de moissons traditionnels.
Et on peut le dire, c'est un cadeau qu'on peut faire soi-même, se faire à soi-même ou à son proche, évidemment à la saison des moissons, mais c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur parce que c'est fait par ses propres mains, avec une vraie intention, tout comme le panier en osier. Là, on est vraiment dans l'art technique, hein, et qui nous rappelle que jusqu'à, là encore, hein, quelques décennies, il n'y avait que des paniers en dans cette dans ce matériau. Et ce qui est formidable, c'est que il revient, ça revient très à la mode. Et vous nous donnez là encore des astuces pour à son tour s'initier à la fabrication de ces fameux paniers qui sont de vrais petits, de très beaux objets.
Et oui, c'est vrai que la vannerie a beaucoup de succès. C'est depuis ces dernières années, c'est revenu en force, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de professionnels qui s'installent, des stages, de nouveaux producteurs d'osier. Et donc, je suis vraiment très contente de ça. Et c'est vrai que c'est aussi en partie parce que la vannerie n'a jamais pu être mécanisée. Et donc, c'est vrai que voilà, toutes les pièces qu'on voit dans les magasins sont faites à la main, même celles qui sont à vraiment très bas prix. Donc, c'est bon aussi de l'avoir en tête comme information. Et donc voilà, dans le livre on apprend des techniques, on va dire, pour débuter, pour faire de la vannerie plus sauvage, on va dire, avec des choses qu'on peut trouver autour de soi, certaines plantes sauvages, et comment les travailler, avoir quelques petites astuces pour démarrer, parce que voilà, souvent on voit des paniers et puis c'est un peu intimidant, on se dit mais comment c'est possible, je vais pas y arriver, mais en fait voilà, il y a toujours une manière de commencer, on va dire, facile, et puis petit à petit monter en difficulté.
Alors justement, on vous voit à l'œuvre, hein, notamment lorsque vous nous expliquez comment fabriquer une ruche de biodiversité, vous nous donnez des informations à la fois simples et très pratiques, avec vraiment étape par étape la manière dont il faut maîtriser les outils qu'on a en main et les matériaux. C'est formidable. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, je leur rappelle hein, qu'on peut retrouver de nombreuses informations en allant sur votre site emmabruski.fr. Et puis pour tous ceux et celles qui sont curieux, qui ne pense pas avoir de la dextérité, là vous nous rappelez que faut juste essayer, car ça, pendant des siècles les hommes et les femmes l'ont fait, on peut tous s'y mettre.
Oui, voilà, l'idée c'était de se décomplexer là-dessus, d'avoir des formes assez simples. Alors bon, selon les recettes et les tutoriels, il y a des niveaux de difficulté différents, mais c'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez simple d'accès, avec beaucoup de photos pas à pas aussi, parce que c'est vrai que oui. Voilà, dans souvent j'ai beaucoup de livres anciens de techniques, et souvent on a que du texte ou quelques schémas, et c'est assez dur de les traduire si on a vraiment pas de connaissances là-dedans. Et donc voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit accessible et simple à mettre en œuvre. Voilà, après c'est vraiment pour donner envie, et puis vraiment faire le petit déclic pour commencer à faire les choses soi-même à son échelle.
Et puis des informations très précieuses comme comment repriser, raccommoder, rapiécer, des techniques, ou remailler, ou encore ravauder, des techniques que les générations précédentes, mais encore aujourd'hui, hein, mais qui étaient très très utilisées avant et que les générations d'aujourd'hui ont peut-être un peu oublié. Ben là, c'est une façon de s'y replonger, et à son tour une manière aussi de ne pas gaspiller. On est en pleine fast fashion, là c'est une manière aussi de revenir à moins de gâchis, à plus de seconde main, à une intelligence hein, de la reprise de nos objets. C'est très bien fait. En plus, je le rappelle, les photos sont très bien faites aussi en couleur, donc ce qui ne gâche rien, parce que souvent les photos noir et blanc ont tendance à nous éloigner de ce qu'on a lorsque l'on fait soi-même ces objets. C'est un petit bijou, plein d'autres choses, je le disais, notamment le bâneton avec des recettes de pain, on a la ruche, on parlait de la ruche, mais il y a aussi le vinaigrier, la chandelle, plein d'informations formidables. Vous nous rappelez aussi les artisans, artistes qui vous ont aidé à travailler sur ce livre. On peut le dire, hein, de plus en plus de gens comme vous, des passionnés, de nous rappeler ces usages passés.
Oui, en fait, ça, c'est vrai que, comme vous disiez, par exemple, pour le raccommodage, typiquement, c'est un exemple de techniques anciennes qui reprennent tout leur sens aujourd'hui, on va dire, pour d'autres raisons, mais qui sont peut-être plus liées à l'écologie, à l'environnement, à la réparation et prendre soin de ces objets. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de les de les remettre au goût du jour, même si effectivement on peut pas forcément, enfin sans forcément vouloir atteindre le niveau de perfectionnement qu'il y avait dans le passé, parce que quand on voit les reprises sur les vêtements très anciens, c'est un niveau d'excellence qui est digne de grands couturiers aujourd'hui, alors que voilà, c'était un savoir-faire appris, on va dire, par toutes les femmes plutôt.
Oui.
Et donc voilà, j'ai beaucoup de livres anciens de travaux domestiques, et c'est vrai que parfois elles allaient jusqu'à raccommoder avec leurs propres cheveux pour que ce soit le plus transparent et le plus discret possible. Donc voilà, c'était un niveau de perfectionnement assez énorme, et donc là c'est plus apprendre dans les règles de l'art, mais de manière assez simple pour débuter, parce que voilà, il faut pas se leurrer, parce qu'on sait que forcément on a un peu moins de temps, et que on a moins de bagages techniques aussi, donc voilà, c'est plus pour commencer.
Et c'est formidable, un très beau livre à offrir ou à s'offrir pour les fêtes de fin d'année. On peut rappeler que les photos sont de Anaïs Barelli.
Oui, c'est ça, c'est une photographe très talentueuse avec qui je travaille souvent, et qui vient photographier les moissons par exemple chaque été, donc je suis ravie d'avoir travaillé avec elle de nouveau pour ce projet.
Alors, on peut dire, hein, savoir et faire, ce sont des objets et gestes autrefois de l'artisanat qu'on nomme, enfin que vous nommez domestique, car c'est vraiment des objets qu'on retrouvait à la maison, dans les foyers des Français, et que l'on redécouvre grâce à vous. Et j'espère que de nombreux amis auditeurs vont et se procurer l'ouvrage, et peut-être à leur tour tenter de faire ces magnifiques objets qui vont peut-être trouver leur place dans nos cuisines, dans nos maisons. C'est un très très beau livre. Alors, je sais que vous avez dû faire une sélection, hein, pour cet ouvrage. Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire une suite avec d'autres objets?
Alors, pourquoi pas, oui, c'est encore pas à l'ordre du jour, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'objets, de techniques, c'est assez infini, donc ça pourrait très bien se décliner sur d'autres objets, même si c'était assez dur de les sélectionner, parce que parfois il y avait des objets que personnellement j'adore, mais qui n'étaient pas forcément reliés à une technique spécifique, ou qui n'avaient pas forcément de sens de les remettre aujourd'hui, ou de les réintégrer dans notre société moderne. Donc voilà, à chaque fois c'est un travail de sélection, mais ça serait avec un grand plaisir de continuer cette recherche. De toute façon, c'est le travail d'une vie entière, on n'aura jamais tout appris sur le sujet.
Eh bien, merci à vous, Emma Bruski. Ce très beau livre, Savoir et faire, objets et gestes d'autrefois, c'est paru aux éditions Ulmer. On peut aller sur le site édition-ulmer.fr et sur votre site emmabruski.fr pour en savoir plus. Et bien, en attendant, on va vous souhaiter aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Et à bientôt.
Et merci beaucoup à vous.
Merci.
Aussi.
Au revoir. Et nous arrivons au terme de l'émission. Alors pour moi, de vous faire cette citation de Charles Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On va se quitter en se souhaitant de très belles fêtes de fin d'année. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve le jeudi 9 janvier, même heure, même endroit. Merci encore à vous, et je vous dis très belle journée sur les ondes d'IDFM Radio. Au revoir.
IDFM Radio, par nous, pour nous. Vous cherchez à améliorer votre bien-être et à explorer de nouvelles dimensions de vous-même ? Virginie Voraz, thérapeute bien-être et psychopraticienne, est spécialisée dans l'hypnose, le rêve éveillé libre et les soins énergétiques. Virginie propose des psychothérapies personnalisées pour vous aider à surmonter vos défis émotionnels et mentaux. Que vous souhaitiez une thérapie individuelle ou un accompagnement en développement personnel et spirituel avec des techniques innovantes, Virginie est là pour vous guider. Plus d'informations sur virginie-voraz.fr ou contactez-la au 06 20 60 29 30. 35. Le cabinet est situé 19 Terre, avenue du Général de Gaulle, à Soisy-sous-Montmorency.